une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ?
Sixième épisode.
Il se passe quoi ?
À Rennes.
Il se passe quoi ?
La pêche à la croisée des chemins ou le sort d'un vœu sain au Conseil régional de Bretagne pour une pêche plus vertueuse. Une plongée sonore en eau trouble d'Alexandre Hérault, réalisée par Vincent Deck.
La protection de l'océan, oui. Des pêcheurs artisans, moi aussi. Quand ? Maintenant.
Et ce qui se joue demain au Conseil régional de Bretagne, c'est de remettre en cause cette destruction continue de la nature par une flotte de chalutiers qui détruit les fonds marins dans l'ensemble de nos eaux.
La protection de l'océan, oui. Chers artisans, moi aussi.
La protection de l'océan, oui. C'est avec ce slogan que l'équipe de l'ONG Bloom, qui depuis 20 ans lutte pour la sauvegarde des océans, a décidé d'appeler à manifester en ce 18 avril dernier devant les grilles du Conseil régional de Bretagne, à Rennes, réunie en séance plénière. L'ONG écologiste a décidé d'apostropher les élus bretons sur le dossier de la pêche autour de l'un de ses combats, la protection effective de l'océan et l'interdiction du chalutage de fond dans nos aires marines dites protégées. La Commission européenne, en février dernier, publiait un plan d'action en ce sens, car les océans sont en surchauffe et le milieu marin en souffrance. Si nos micros accompagnent cette action, c'est qu'à ce jour, plus de 100 000 citoyens, 260 scientifiques français et plus de 100 associations publiques sont réunis au sein de la Coalition citoyenne pour la protection de l'océan, qui prône entre autres le renforcement des aires marines protégées. Et l'action pacifique de Bloom, ce jour-là, devant le Conseil régional de Bretagne, est programmée pour appuyer le vœu porté par le groupe Les Écologistes de Bretagne, présidé par Claire Desmarre, connue pour affronter le lobby breton de la pêche lié avec le pouvoir politique local, tout comme l'est l'agro-industrie régionale. On ouvre donc le dossier compliqué de la pêche avec ce vœu autour des aires marines protégées porté par Claire Desmarre, qui nous entraînera dans cet épisode de Pagaille à faire des petits détours vers la pointe Bretagne et la parole de pêcheurs qui ont fini de se taire.
Madame Desmarre pour le groupe Écologiste de Bretagne.
Monsieur le Président, chers collègues, ce que nous proposons avec ce vœu, ce n'est ni plus ni moins que d'enfin appliquer la loi. De nombreux textes internationaux nous imposent de protéger 30% de nos eaux en aires marines protégées, dont 10% en protection stricte. Jusqu'à présent, la France a tenté de déroger à ses obligations. À Bruxelles, on dit aires marines à la française. Les chercheurs les appellent aires marines de papier. Des zones où les techniques de pêche les plus destructrices des écosystèmes, comme le chalut, sont autorisées. Ça n'est pas acceptable. Demander 20% de nos eaux réservées pour la pêche artisanale qui fait vivre nos territoires et les pêcheurs artisans pour qu'ils ne subissent plus la concurrence de la pêche industrielle, c'est une mesure de justice sociale. Monsieur le Président de Région, n'abdiquez pas devant le lobby de la pêche industrielle aux dépens de la biodiversité marine, aux dépens de l'emploi et de la pêche artisanale dans notre région. Nous vous invitons, Monsieur le Président, chers collègues, à soutenir et à voter ce vœu. Merci beaucoup.
Claire Desmarre, un mot sur ce vœu que vous portez avec votre groupe, les écologistes de Bretagne.
Ce qu'on veut préserver, c'est non seulement la ressource du poisson qui est pêché pour être mangé, mais aussi toute la biodiversité qui va autour, et puis protéger aussi l'écosystème humain qui va autour, parce que c'est les plus petits et les plus vertueux qui sont les plus fragiles. Ils sont fragiles au changement climatique, mais ils sont aussi et surtout fragiles à la guerre économique qui se passe sur les mers aujourd'hui. Ils sont les premiers à être victimes du système, et donc ils disparaissent petit à petit, un renouvellement générationnel, les petits pêcheurs partent à la retraite, les bateaux ne sont pas repris, et les armateurs qui ont la capacité de mettre des chaluts sur la mer récupèrent les quotas. Et en fait, c'est un système de prédation.
Claire, je vous laisse au Conseil régional suivre la séance plénière. Il revient maintenant au président de la région Bretagne, le socialiste Loïc Chesnais-Girard, de répondre aux vœux de Claire Desmarre.
Plus c'est gros, plus ça passe. On est face à un moment assez hallucinant.
où on utilise cet hémicycle pour une campagne nationale, où on manipule l'information, où on fait de la punchline avec des montages qui laissent entendre que des chalutiers sont aux portes de la Bretagne de plus de 100 mètres alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, et où on dénigre les pêcheurs bretons. Ça commence à être insupportable. Je redis encore une fois que nous sommes dans une logique de régulation et que nous sommes au service de l'avenir de la biodiversité et de l'avenir de la pêche, et les caricatures et les méthodes qui sont utilisées là ressemblent furieusement à des méthodes que nous dénonçons tous collectivement. Faisons chacun attention.
Parmi ceux qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps concernant les dérives de la pêche industrielle se trouve le scientifique Didier Gasquel, qui enseigne l'écologie marine à Agrocampus Ouest, à Rennes. Et sur les aires marines protégées, il nous éclaire.
On a décidé de faire des aires marines protégées à une très grande échelle. Et en même temps que la France a effectivement mis en place, sur le papier, des aires marines de très grande échelle, elle les a vidées de toute mesure de protection. La plupart d'entre elles, il n'y a aucune mesure de protection mise en place. On est dans cette situation absolument incroyable que dans ces aires marines protégées dans l'Atlantique nord-est, au large de nos côtes, eh bien, il y a finalement plus de chalutage à l'intérieur des aires marines protégées qu'il n'y en a à l'extérieur. La partie qui est réellement protégée, elle représente moins de 0,1%. Donc il y a un écart absolument vertigineux entre un discours et un imaginaire où la plupart des citoyens pensent que maintenant on a des très grandes zones protégées et le fait qu'en réalité ceci n'existe que sur le papier.
Au tour maintenant du vice-président mer et littoral de la région Bretagne, Daniel Cueff.
Monsieur Cueff, pour apporter notre réponse.
Si on applique ce vœu en Bretagne, c'est la mort de la pêche professionnelle. C'est d'ailleurs probablement le but visé par votre vœu. Je suis très impressionné par la rhétorique que l'on retrouve dans des ONG, des multinationales, qui visent à coloniser les océans, avec en particulier comme objectif de dégager les pêcheurs et de les mettre dans des réserves. Voilà comment le combat formidable pourtant de la biodiversité est instrumentalisé à des fins géopolitiques. Nous voterons contre ce vœu.
Sur le sujet des aires marines protégées, en fait, ça vient s'insérer, si vous voulez, dans un ensemble de discours pour faire passer les aires marines protégées pour ce qu'elles ne sont pas, à savoir une mise sous cloche de l'océan qui vise en fait à interdire toute forme de pêche. Ce n'est pas vrai.
Valérie Lebrun, chargée de projet à Bloom.
Il y a des statuts de protection différenciés qui permettent un certain nombre d'activités dans certaines zones, par endroit, effectivement, des zones totalement préservées pour qu'en fait les écosystèmes puissent se reconstituer, et ce qui permet d'avoir des retombées positives sur en fait les espaces adjacents dans lesquels, là, il peut y avoir de la pêche. Le problème, c'est qu'à force de répéter des mensonges, ça n'en fait pas une vérité. Mais ça finit par prendre. Et donc, on a vraiment ce problème-là de désinformation qui fait qu'effectivement, il y a chez certains pêcheurs une défiance vis-à-vis de ce dispositif. Puis le deuxième problème, c'est que ça intervient aussi dans un contexte où on a des pêcheurs pour lesquels la situation est extrêmement compliquée depuis des années, qui ne sont pas défendus, qui sont les premières victimes de la raréfaction des ressources. Donc, eux, ils voient ça potentiellement, sur la base de ces informations, comme en fait un nouveau dispositif, une nouvelle obligation qui viendrait encore les contraindre, etc.
Squazel ou adu, ça veut dire qu'on est d'accord et favorable.
Merci à vous, écologistes de Bretagne.
Adu pour.
Merci. Rassemblement national.
Abstention.
Je vais rencontrer Daniel Cueff après la clôture de cette séance plénière, se terminant donc, sans surprise, par le rejet brutal de ce vœu. Le vice-président du Conseil général à la mer et à la pêche se définit comme provenant de l'écologie politique, ayant été le premier maire à faire interdire sur le territoire de sa commune tout produit phytosanitaire. Mais il croise le fer avec les deux groupes écologistes du Conseil régional. C'est avec une véhémence féroce qu'il a publié la veille du vote de ce vœu une réponse à l'interpellation du Conseil régional par l'ONG Bloom. Daniel Cueff a publiquement calomnié dans le texte Bloom, je cite, « aveuglé par leurs préjugés », certaines de ces ONG, appuyées par des scientifiques militants, ne perçoivent pas la dimension proprement hémiplégique de leur projet, les accusant de s'enfermer dans une sorte de réalité alternative. Ce qu'il nous explique ici.
Oui, parce que quand vous signifiez, si vous voulez symboliquement, bien entendu, à toute une filière pêche qu'elle doit disparaître, vous créez une violence absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à une autorité, un parti, qui vient vous dire que la façon que vous avez de travailler, la façon dont vous avez de penser, la façon dont vous avez de manger n'est pas la bonne et qu'il faut changer. C'est extrêmement violent. Et cette violence symbolique, elle produit quoi ? Elle provoque des réactions. C'est-à-dire on résiste. C'est quelque chose qui empêche le changement, justement. Donc il y a cette tendance d'une écologie non humaniste, que je condamne depuis toujours, qui est de dire, comme l'être humain pose problème, on va l'enlever de là. Et créer des zones dans lesquelles il n'ira plus, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'une écologie non humaniste, qui est aujourd'hui à condamner et à pourchasser, même, je dirais, en tout cas à dire qu'il y a une autre écologie qui s'appuie beaucoup plus sur l'homme comme solution et pas simplement comme problème.
Sauf qu'en tant que politique, Daniel Cueff, vous devez voir qu'il va falloir imaginer d'autres méthodes, ce que disent les scientifiques aussi. Que vous appelez des scientifiques militants.
Le problème, c'est que quand on est scientifique, on doit prendre beaucoup de recul, de distance avec le champ politique. Ça semble plus être le cas quand on a un scientifique qui fait un projet, une proposition politique de réorganisation de la société, etc.
Oui, alors moi je suis un peu stupéfait effectivement par les communiqués qui ont été faits par le vice-président de la région Bretagne, dénonçant les scientifiques militants.
Didier Gasquel, professeur d'écologie marine à AgroCampus Ouest à Rennes.
Est-ce que les scientifiques du GIEC, qui se battent depuis des années pour que des mesures soient prises en matière de climat, doivent être taxés de scientifiques militants en essayant d'une certaine manière de les déconsidérer? Il paraît encore aujourd'hui une grande tribune, je crois, dans le monde, signée d'un très large panel de scientifiques qui appelle à l'action. Si c'est ça, être scientifique militant, alors oui, je me revendique scientifique militant. Et ça ne m'empêche pas, dans le même temps, de faire avec toute la rigueur scientifique mon travail de scientifique. Je pense que de plus en plus de scientifiques ont pris conscience du fait que ce qu'ils observaient, ce qu'ils trouvaient dans leurs modèles, dans leurs données, dans leur système d'observation, leur donnait la responsabilité de s'adresser au grand public, de faire connaître leurs résultats au grand public, et effectivement, de s'exprimer pour dire qu'il faut changer. Je travaille depuis 40 ans sur les questions de pêche. J'ai publié tout un ensemble de papiers scientifiques dans les revues les plus sérieuses qu'on peut imaginer dans le domaine sur les impacts de la pêche et sur les impacts du changement climatique sur le fonctionnement des écosystèmes. Oui, je suis obligé de dire aujourd'hui que mes résultats me montrent qu'il faut agir, que les normes de gestion qu'on a en vigueur ne sont pas adaptées au contexte nouveau dans lequel on est, qui est ce contexte de l'érosion de la biodiversité, du changement climatique, des océans sur lequel, alors on le dit, c'est évidemment une image, d'une certaine manière, il y a le feu.
Hier, Claire Desmarres, on disait ça ne doit pas être un vœu pieux. Là, c'est tout de même un vœu qui a été violemment écarté. Comment on prend cette histoire-là?
Nous, quand on a été élus au Conseil régional de Bretagne, on savait que ça allait pas, être une colonie de vacances. C'était évident que c'est difficile d'être écologiste à la région Bretagne et qu'en particulier, il y a deux sujets sur lesquels il y a un clivage extrêmement fort entre les écologistes et le reste du spectre, parce qu'en fait, ici, la gauche est quand même un peu de droite sur un certain nombre de sujets. Les deux sujets, c'est l'agriculture et la pêche. Les parallèles entre les deux sont incroyables sur l'accaparement de la richesse, sur le productivisme, sur le rôle de l'agroalimentaire, sur l'absence de démocratie dans les instances représentatives, sur la violence qui s'exprime contre les voix des militantes de terrain et des écolos qui vont contre. Donc on savait très bien que c'était compliqué. Vous l'avez vu aujourd'hui, en fait, les arguments qui sont employés, c'est nier l'évidence. Par exemple, l'argument de « il y a des aires marines protégées en Bretagne, il n'y a pas de problème ». Alors que non, en fait, le problème il est là, mais il n'y a pas ce débat, parce qu'il n'y a pas d'espace pour qu'il ait lieu. Alors on s'en prend à moi en tant que personne, on s'en prend à nous en tant que collectif, on s'en prend... aujourd'hui il y avait des arguments contre les ONG, qu'on appelle des lobbies, mais non, enfin, le lobby c'est la défense de l'intérêt particulier. Ils n'ont pas d'arguments, par exemple pendant très longtemps les socialistes disaient c'est pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi. C'était un peu l'argument magique. Et cet argument-là, il ne marche pas, puisqu'il y a trois fois plus d'emplois dans la pêche artisanale que dans la pêche industrielle. Et donc, quand la pêche industrielle, elle vient, elle se rapproche de la côte parce que le gasoil est trop cher et qu'elle met en péril la pêche artisanale, mais en fait, du coup, l'emploi n'est plus un argument. Ils n'ont pas de proposition. et les seuls soutiens qu'ils ont, enfin voilà, quand tu es soutenu par Olivier Lenezet, président du comité national et du comité régional breton des pêches, c'est quelqu'un d'extrêmement influent et c'est quelqu'un qui défend la pêche industrielle très fort.
Une question sur l'absence ou la façon dont les pêcheurs artisanaux ont du mal à nous expliquer leur position et à avoir envie d'en prendre publiquement.
Moi, je comprends que pour les gens qui sont concernés au quotidien, c'est difficile. C'est le principe de l'omerta, c'est le principe des coups de force qui font que quand on s'exprime, on est mis en difficulté, sur sa criée, dans son port. Et donc, c'est difficile pour eux. Et quand je viens au Conseil régional de Bretagne, je sais quelle voix je porte. Et quand je vois les gens qui ont voté pour Daniel Cueff en se disant qu'ils votaient pour un écologiste, j'ai de l'empathie pour le sentiment de trahison et que je pense qu'une démocratie, elle a besoin de sincérité, elle a besoin de loyauté à ce à quoi on s'engage. Et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour quand je viens ici.
Gare de Rennes, retour Paris, fin de mission, Swann Baumier. On fait pour Bloom un petit point sur ce qu'on a vécu pendant ces deux jours.
Ben, ça a été intense, mais surtout, ils ont rejeté le vœu dans un débat qui était juste lunaire. Et c'était révoltant par le déni de réalité. On a eu le droit aux calomnies, on a eu le droit aux attaques en considérant que les écologistes de Bretagne étaient les télégraphistes des associations. On a eu le droit aux théories complotistes sur les associations environnementales et les fondations qui soutiennent le combat pour la protection de l'océan. Et à ce à quoi on n'a pas eu le droit, c'est un débat de fond sur les recommandations scientifiques internationales, le consensus au sein des organisations internationales aussi de protection de l'environnement, les recommandations de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Tout ça, ça a été balayé, on n'en a même pas entendu parler. Et les élus qui s'opposent aux vœux sur les aires marines protégées ne parlent même pas du problème dans le fait que les pêcheurs artisans se font arracher leur matériel, leur casier, leur filet par les chaluts, la concurrence déloyale dans le secteur entre les pêcheurs côtiers et la grande pêche industrielle. Pour eux, on n'a eu aucun mot. On a vidé l'océan de ses richesses au cours des 50 dernières années. Et comment reconstituer les abondances de poissons, ça, c'est même pas débattu. En fait, c'est des gens qui n'ont aucun argument et qui donc multiplient les calomnies et les attaques en tout genre pour essayer de discréditer l'adversaire parce que sur le fond, ils savent qu'ils ont déjà perdu.
La ville de Rennes, non pas pour la gare Montparnasse, comme Swann Baumier, mais on met le cap à l'ouest, vers le Finistère, où nous attend dans sa maison de la rade de Brest, Charles Brenne, l'homme aux vies multiples. Il préside aujourd'hui l'association Pleine Mer, fédérant les pêcheurs artisans en promouvant la pêche durable. C'est lui aussi qui cofonda Poiscaille, la start-up inventant la vente des produits de la mer issus d'une pêche vertueuse en circuit court du marin à l'amateur de poissons. Avant cela, il fut aussi pendant 4 ans le responsable du programme pêche durable à WWF. Et surtout, après cette expérience, il est devenu marin-pêcheur pendant quelques années. Et c'est cela qui le rend crédible auprès de toutes les ONG qui le consultent, comme Bloom, mais aussi auprès des instances scientifiques et des politiques, et des pêcheurs surtout. Crédible et précieux dans un milieu où la parole est rare quand elle n'est pas tout simplement colère. Charles Brenne a son propre agenda politique. Il est candidat aux élections européennes sur la liste Europe Écologie Les Verts, où il s'engage, je cite sa profession de foi, pour celles et ceux qui vivent de la petite pêche, pour l'océan et contre les idées absurdes de l'extrême droite. Une extrême droite d'ailleurs qui recrute beaucoup dans la filière pêche. Et lorsqu'il nous reçoit, il accepte le terme militant pêcheur et nous offre son regard sur ce vœu rejeté par le Conseil régional de Bretagne. Il nous dit pourquoi les aires marines protégées sont importantes.
Les aires marines protégées sont clairement un super outil pour deux choses, pour améliorer l'état de l'océan à l'endroit où on le protège évidemment, mais en fait de par le passé, on l'a vu, quand on va mettre une réserve, une aire marine protégée stricte à un endroit, en fait les poissons qui vont s'y sentir mieux, grandir plus, en fait vont déborder des limites de ces aires marines protégées et donc vont bénéficier notamment aux pêcheurs qui sont en proximité. Ou alors, et c'est le cas dans pas mal d'endroits dans le monde, dans des aires marines protégées, on peut n'accepter qu'un certain type de technique de pêche, une taille maximale de bateau. S'il n'y a que des petits bateaux plutôt vertueux qui ont le droit, avec forcément des encadrements en nombre de bateaux, on va quand même avoir quelques règles, évidemment. Mais on va éviter d'avoir typiquement des chalutiers géants qui vont venir foutre le bazar au milieu de l'air marine. Et bien, en fait, ça va profiter à tout le monde. Et les quelques histoires que je connais, moi, sur le littoral de réussite, c'est quand on a réussi à souvent à associer la petite pêche à la création des aires marines protégées. Parce qu'en fait, ils ont vu le bénéfice. Donc en fait, il y a une réflexion à avoir sur où est-ce qu'on protège et comment on protège et avec qui on protège. Donc là, en fait, si on a comme intervenant que les tenants des énormes bateaux ou aujourd'hui le Comité national des pêches qui est trusté par la pêche industrielle pour défendre ce truc-là, c'est impossible. Et clairement, les politiques et les ONG sont dans leur rôle, elles étaient dans leur rôle de manifester contre, enfin de proposer ce vœu et de s'opposer à la politique de la région Bretagne aujourd'hui. Voilà, moi mon quotidien, il est d'accompagner celles et ceux sur les quais qui essayent de s'engager, essayent d'en convaincre d'autres. Moi mon boulot, et le boulot de l'asso, c'est d'être aux côtés des professionnels, de remonter ces informations, de discuter, et parfois même aussi de traduire les actions militantes des ONG qui peuvent être parfois mal comprises sur les quais. On a chacun nos rôles, mais c'est complémentaire. Et moi je retiendrai de cet épisode le cynisme du vice-président qui parle notamment des ONG qui voudraient la mort de la pêche, alors qu'en fait c'est l'immobilisme politique qui est en train de condamner plan de sortie de flotte après plan de sortie de flotte, la pêche, notamment en Bretagne, et parler aussi d'un militantisme scientifique de la part des seuls scientifiques qui osent un peu sortir de bois pour dire que non, en fait, ça va pas et qu'il va falloir se bouger et pour l'océan et pour les pêcheurs. Moi, je suis tombé de ma chaise et je me dis qu'on n'a pas les politiques qu'on mérite aujourd'hui.
On recense, bon an mal an, entre 6 et 7 000 pêcheurs artisans opérant le long des côtes françaises à bord de leur petite embarcation de moins de 12 mètres. C'est souvent une taille utilisée comme critère pour les distinguer des pêcheurs industriels qui opèrent sur des navires beaucoup plus grands. Ils pratiquent une pêche durable, même s'ils utilisent les arts traînants, c'est-à-dire des techniques de pêche où un chalut, en d'autres termes un filet, est traîné derrière un bateau en ciblant les espèces prélevées. Ils pratiquent aussi les arts dormants, c'est-à-dire la pose de casier sur les fonds marins qui permet de pêcher que les espèces désirées, comme l'araignée ou le homard, par exemple. Et puis, il y a ceux aussi qui pêchent à la ligne, comme Gwen Pénarin, avec qui j'ai rendez-vous sur le petit port de Sainte-Marine, non loin de Loctudy, au tout début du golfe de Gascogne, au sud du Finistère. Gwen Pénarin, qui a accepté de nous parler de son métier, est le président des ligneurs de la Pointe-Bretagne, qui regroupe une soixantaine de pêcheurs artisans. En le regardant arriver, je me disais que sa petite embarcation de 8,50 m, le Beluga, avec sa coque tout en métal, faisait partie, à l'heure de l'Angélus, au retour de pêche, des attractions de la petite ville de Sainte-Marine, proche de l'image d'une carte postale.
Et voilà.
Une journée en mer avec le Beluga, ça ressemble à quoi Gwen Pénurin?
Ce matin, on est parti à 8h. On a chaluté nos lançons parce que j'ai un petit chalut à bord qui me permet juste de pêcher mon appât. C'est un petit chalut qui est tout petit, qui racle à peine le fond et je pêche juste de quoi pêcher sur ma canne à pêche avec un seul hameçon dans ma journée. Voilà, je ne suis pas gourmand. Après, une fois qu'on a eu assez de lançons pour faire notre journée, on est parti dans le sud des Glénans. Et là, voilà, on a passé notre journée avec chacun sa canne, chacun son hameçon. Et voilà, on est rentré avec 80 kilos de bar et un peu de pagre. Donc c'était une très bonne journée.
Gwen Pénarin, le beluga aujourd'hui, il appartient à un sport comme une relique ou bien au contraire, comme un exemple, ce qu'il faut faire?
Moi, quand j'ai commencé, effectivement, on était 14 bateaux dans ce petit port juste devant nous et 14 bateaux dans le port en face, donc le port de Bénodet. Donc ça faisait quand même une petite trentaine, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, il reste un bateau à Bénodet et bientôt un bateau à Sainte-Marine. J'ai commencé en 83 et nous sommes en 2024. 40 petites années, il y a 30 bateaux qui ont disparu de la circulation. Je crois que c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui la petite pêche. Il faut être toujours dans le bon créneau, toujours avec les bonnes options. Et surtout, on est passé sur des bateaux qui deviennent de plus en plus chers et quasiment inaccessibles aux jeunes. Et on sait bien que le renouvellement d'une flottille passe par la jeunesse.
Après, on arrive à un moment où, pêcheur, ce n'est pas un avenir auquel vous voulez promettre vos enfants aussi.
Non, là, moi, non, je ne suis pas si pessimiste que ça. Je pense qu'il y a encore une place, notamment pour le genre de petite pêche qu'on pratique aujourd'hui, même si on ne dépend pas forcément au niveau ressources de juste ce que nous on fait, mais on dépend malheureusement de ce que d'autres peuvent faire comme conneries. Mais quelque part, j'espère et je pense qu'il y a encore un avenir pour la petite pêche ici.
L'association des pêcheurs ligneurs de la Pointe-Bretagne est née il y a presque deux décennies avec déjà cette idée qu'il fallait promouvoir, cette pêche dite durable.
Alors, l'association des ligneurs, ce n'est pas deux décennies, c'est trois décennies. Le but, en fait, si je peux faire rapidement le début de cette histoire, c'est une concurrence déloyale du poisson d'élevage, du bar d'élevage, pour ne pas le dire, et du bar de chalut qui descendait forcément les prix d'une manière générale vers le bas. Et on s'est dit, ben, nous, c'est du bar de ligne. Alors, il est meilleur, évidemment, il faut le reconnaître quand même. Donc, on a décidé d'y apposer une étiquette sur la joue, où c'est bien spécifié le nom du bateau, pêché à la ligne dans tel secteur. Et petit à petit, l'écart, les autres ont un peu plongé et nous, on est plutôt remonté, quoi. Et c'est effectivement une association qui met en avant la pêche durable, le côté bonne pratique. Nous, chaque adhérent de notre association, aujourd'hui, s'engage à ne pas pêcher pendant la période de reproduction du bar. Ce qui est un gros effort pour des jeunes, par exemple, qui commencent, quoi. Donc c'est pas toujours simple, mais bon, après, on voit qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment dans cette démarche-là, quoi. Ils n'ont pas des envies comme des industriels de gagner de l'argent à outrance. Ils veulent juste en vivre et être bien avec leur métier. Et à la limite, cette période d'hiver, ça tombe bien, quoi.
Et puisqu'on parle de cette pêche durable, alors les deux, trois petites choses qu'il faut savoir pour qu'une pêche soit vertueuse.
Pour moi, en fait, il faudrait que le prélèvement qu'aujourd'hui les pêcheurs font dans ce stock-là ne met pas en danger ce stock-là. On n'est pas là, moi je suis pas là pour faire des quantités et des quantités. Moi je sais combien il faut que je fasse par jour. Une fois que je suis arrivé à ça, voilà, on rentre et puis c'est bon, quoi.
Donc cette pêche vertueuse, Charles Lebrun, existe. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui ne l'est pas vertueux, c'est l'univers de la pêche en général. Petit tableau de ce à quoi on est confronté quand on essaye justement de faire bouger les frontières.
En fait, il faut repartir du départ. Et souvent, on fait le parallèle avec l'agriculture. Et la grande différence, c'est que nous, on est sur une activité de cueillette. C'est-à-dire qu'on va prélever des produits qui sont issus de la nature dans l'océan. Et depuis 30 ans, on sait que, quels que soient les moyens qu'on va mettre sur les océans, en fait, les océans du monde ne nous donneront pas plus qu'une certaine quantité. En gros, c'est 100 millions de tonnes. Et donc, on a cette limite biologique par nature. Donc ça, c'est une première limite, ce qui est la différence, parce que les pratiques agronomiques ont permis, même de manière vertueuse, parfois, d'améliorer les rendements d'un champ. Nous, on n'a aucune influence, si ce n'est plutôt néfaste, sur la productivité des océans. Et l'autre parallèle qui pénalise encore plus la pêche, c'est que nous, quand on démarre le tracteur le matin, on va tous sur le même champ. Et donc, c'est clairement le Far West. C'est extrêmement compliqué. Alors, la surpêche a généré des réglementations, des encadrements. Donc, vous avez tous entendu parler des quotas. Il y a des licences aussi de pêche. Et en fait, l'effet un peu pervers, c'est qu'au fur et à mesure de la surexploitation, en fait, il y a eu de moins en moins de place parce que les gros étant les premiers servis. En France, pour par exemple avoir un quota de pêche, on regarde vos antériorités. Plus vous avez pêché, plus vous aurez une grosse part du gâteau quand un poisson est mis sous quota. Ce qui fait que c'est très compliqué pour, par exemple, les petits pêcheurs qui sont polyvalents, qui ont besoin d'avoir plusieurs espèces en petite quantité tout au long de l'année. Alors qu'en fait, la pêche est spécialisée. On l'a poussée à avoir des plus gros bateaux qui vont être spécialistes de tels poissons et donc finalement, à la fin, surpêcher. Donc en fait, tous ces règlements, enfin, cette surpêche a généré aussi une difficulté énorme pour celles et ceux qui voulaient pêcher de manière un peu plus intelligente. Et l'autre mécanisme qui n'aide pas du tout, c'est que après-guerre, on a collectivement, les Français, en tout cas, mis le paquet sur le chalutage, qui était une manière de produire vite et beaucoup de protéines, et que c'est aujourd'hui le modèle majoritaire, en volume en tout cas, en France. Et c'est surtout ce qu'on voit dans les instances de représentation, alors que malheureusement, cette technique, elle va pas dans le sens de l'histoire, elle est très gourmande en énergie, impactante, elle fournit peu d'emplois au regard de ce qu'elle capture. Et malgré tout, les tenants de beaucoup de structures professionnelles le défendent mordicus. Je pense pas forcément en pensant à mal, mais ils sont en train de condamner pour moi une partie de la pêche parce qu'ils empêchent, avec cette position, la transition de la pêche nécessaire pour celles et ceux qui vivent de la mer.
Gwen Pénarin, aujourd'hui, c'est pas la fin de la pêche, il y a des solutions. Ces solutions, on les connaît. Cette biodiversité, il faut la protéger. C'est quoi, ça passe par quel genre de réponse?
Ouais, moi je pense que on met tout dans le même paquet, et, alors que ce soit les ONG et les politiques, c'est encore pire d'ailleurs. On met tout dans le même paquet par manque de connaissances. Je pense que, alors il y a des ONG, elles connaissent le terrain. Moi, j'en connais quelques-unes, ils connaissent le terrain. Mais quand j'entends dire, mais tout le monde devrait faire de la petite pêche, mais le problème, c'est que la petite pêche, aujourd'hui, telle qu'on la pratique, la bande côtière, elle est saturée, quoi. Elle est saturée de bateaux, qui vont de bateaux un peu plus petits que le mien, jusqu'à des bateaux de 12 mètres, avec des kilomètres de filets épouvantables. Donc, c'est trop facile de dire le chalutage est mauvais et le reste est bon. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et définir effectivement aussi qu'est-ce qu'une pêche durable, qu'est-ce qu'un pêcheur artiste. Tout ça, c'est des définitions qui, alors sur le papier, elles sont peut-être faciles à... Mais après, dans la pratique, c'est pas ça, quoi. Et deux bateaux de la même taille peuvent avoir une pêche durable et l'autre ne pas avoir une pêche durable. Et c'est tout ça qui est très très compliqué à définir, en fait. C'est pas une ligne, la pêche, quoi. Il n'y a pas une ligne avec les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est pas si simple que ça, quoi.
Sans jeu de mots, c'est pas une ligne, alors que vous ne pratiquez que la pêche à la ligne.
C'est pas une ligne, ouais. Et puis après, moi, il y a quelque chose qui me... Enfin, ça, c'est moi, c'est personnel, mais je trouve que si demain le chalutage doit s'arrêter pour X raisons, qui demain aura droit de manger du poisson, quoi? Que les gens qui ont de l'argent, des gens, on voit bien, le poisson aujourd'hui c'est devenu un produit de luxe. Je suis bien placé pour le savoir, parce que le bar, c'est un de ces produits de luxe. Mais demain, s'il y a plus de chalutiers pour fournir une gamme de poissons, alors je dis pas que c'est moins bon, mais c'est une autre gamme de poissons que des gens qui ont moins d'argent peuvent acheter et manger du poisson et s'en nourrir, et bien ça sera fini, quoi. Et tout va s'écrouler derrière, les criers vont s'écrouler derrière, il va rester des petits bateaux qui vont venir vendre le long des cales et tout ça, mais ça sera plus un produit de luxe, ça sera un produit qui finira par disparaître, quoi.
Alors qu'est-ce qu'on dit aux usines à surimi, qu'est-ce qu'on dit aux boîtes de thon qui proviennent d'endroits où on a pillé l'ensemble des côtes de pays qui en auraient vraiment pas besoin?
Voilà, ça, on ferait mieux de s'attaquer déjà à ce genre de problème où là, pour le coup, c'est évident, hein, dès qu'on a un peu de connaissance dans ce genre de choses, on sait que c'est... Ils ne peuvent pas nous faire croire qu'avec des chaluts qui ont des ouvertures, qui font je ne sais pas combien de fois le port ici, ils arrivent à trier le poisson en disant « Non, non, nous, on pêche que du maquereau, ou ce coup-ci, on va pêcher que du merlan bleu. » C'est impossible. Nous, on a vu des trafics de ces bateaux-là où, avec un chalut qui fait 30 mètres d'ouverture verticale, ils étaient sur des fonds de 37-38 mètres, donc il n'y a rien qui passe à travers. Et tout ça part à serre de la farine. Alors ça, c'est de la farine pour faire du poisson d'élevage, on tombe encore dans une aberration complètement dingue, ou pour faire du surimi. Donc quand on voit des bateaux comme ça qui sont si près de nos côtes, ou quand on les voit le long des côtes de l'Afrique avec des pirogues qui sont en premier plan... Tout ça pour quelques industriels néerlandais, hein, faut dire les choses comme elles sont, qui trichent via des quotas français, via des achats de bateaux. Enfin, ils trichent pas parce que la loi leur donne raison, mais n'empêche qu'acheter un bateau, le casser et faire un neuf avec des quotas qu'ils ont achetés et tout ça, c'est de la grosse bidouille, quoi, pour nous, quoi. C'est au détriment de toute logique, alors financière sûrement pas, parce que je pense qu'ils s'y retrouvent, mais au point de vue d'une logique de pêche durable, on n'y est sûrement pas. Mais je pense que ces gens-là, le jour où il n'y aura plus de poissons, ils passeront au café, ils passeront... C'est des hommes d'affaires, c'est plus des pêcheurs, c'est des... Voilà.
Il y a une très grande diversité, évidemment, parmi les pêcheurs. Hein. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pêcheurs qui ont envie de faire un métier propre, durable, d'inventer un nouveau type de pêche.
Didier Gasquel, professeur d'écologie marine à Agrocampus Ouest, à Rennes.
Mais c'est vrai que collectivement, le monde de la pêche a beaucoup de mal à admettre ce débat en son sein et se sent toujours à développer depuis des décennies ce que j'appelle une culture de la citadelle assiégée. C'est-à-dire que pour se défendre, il faudrait considérer que toute proposition qui vient de l'extérieur est une menace et que tout débat qui est fait à l'intérieur serait une trahison. Je prétends, moi, que ceux qui sont les vrais défenseurs de la pêche, c'est ceux qui essayent de l'accompagner dans la transition. Que, à l'inverse, si la pêche devait rester dans le modèle dans lequel elle est aujourd'hui, eh ben, elle court à sa perte. Elle court à sa perte, ne serait-ce que pour des raisons économiques. On a aujourd'hui un modèle de pêche qui est très, très dépendant du gasoil, qui devient de plus en plus cher. Une pêche qui est très dominée par le chalut. Hein. Il faut savoir que la pêche au chalut, ben, pour chaque kilo de poisson pêché, c'est 2 litres de gasoil brûlé. Ça ne peut pas continuer dans un monde à la fois où le prix du gasoil augmente et puis dans un monde où on voit bien qu'il faut se décarboner. Donc c'est absolument pas durable. Là où c'est compliqué, c'est que il faut arriver à construire un avenir post-chalut. Parce que quand on dit aux pêcheurs « mais attention, le chalut est condamné », ils n'arrivent pas à imaginer autre chose. Ils s'imaginent qu'on veut supprimer la pêche, point barre. Et moi je dis, si on supprimait la pêche, point barre, mais ça serait une très mauvaise nouvelle pour l'environnement, pour la biodiversité marine, parce que probablement on importerait de l'étranger tout ce qu'on consomme aujourd'hui dans des conditions encore pires. On a besoin de faire muter une grande partie de la pêche, voilà. On a besoin à la fois de conforter une petite pêche côtière, qui globalement aujourd'hui est plutôt vertueuse, utilise des engins de pêche relativement peu impactants, pas tous, pas toujours, hein, et puis crée de l'emploi. Donc celle-là, on doit la conforter, en gros en lui réservant les ressources de la bande côtière. Mais on a aussi besoin de bateaux plus gros, pour aller pêcher plus au large, ce qui fait une bonne grosse partie de la production. Et ceux-là, aujourd'hui, ils sont majoritairement sur un mode de pêche au chalut, qui est complètement arrivé au bout de course, enfin en termes de durabilité. Ils sont dans une impasse, ils se sont enferrés dans une impasse. Donc il faut remplacer la pêche telle qu'elle est. Il va falloir un peu de temps, il va falloir de l'accompagnement, il va falloir des tests, mais il faut rentrer dans une spirale vertueuse dans laquelle on commence par reconstituer des écosystèmes en bon état, des ressources plus abondantes, et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans cette spirale vertueuse, alors oui, des pêches douces, des pêches à la ligne, des pêches à la nasse vont devenir possibles, c'est-à-dire des pêches qui n'impactent pas ou très très peu le milieu.
C'est le plus gros chalutier d'Europe, capable de pêcher 400 tonnes de poissons par jour. Et pour 15 millions d'euros, ce navire-usine, l'Annelis Helena, va être exploité par une entreprise française, la Compagnie des pêches de Saint-Malo. L'Annelis Helena fait 145 mètres de long. À titre de comparaison, c'est 13 fois la taille moyenne d'un chalutier français. Dans ses soutes, le navire sera équipé pour fabriquer de la pâte de poisson destinée à être transformée en surimi à terre, en Hollande ou en France. La compagnie des pêches de Saint-Malo n'a pas souhaité nous répondre. Elle assure dans un communiqué que l'opération ne concerne que le merlan bleu, qui n'est pas ciblé par les navires côtiers.
Charles Bren, le 14 février 2024, on vous a tous vus réunis, Bloom, les marins pêcheurs, ceux qui étaient pour militer main dans la main contre l'arrivée de ce bateau, l'Annelis Helena, ce bateau dit de l'enfer.
Ce bateau, c'est un bateau symbole. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu braquer les lumières et les caméras ce jour-là. C'est le plus gros chalutier du monde qui est capable de capturer ce que je pêche en une carrière, ils le font en une journée, c'est complètement absurde, et pour faire un produit sur-industrialisé qui n'aura plus le goût du poisson, qui est le merlan bleu au départ, qui est un produit plutôt chouette à manger. C'est un poisson qui n'est que loin des côtes, donc on ne va pas aller le pêcher avec mon petit bateau de 8 mètres. Par contre, on pourrait imaginer une pêche hauturière, vertueuse, qui valoriserait différemment ça. Mais là, un bateau aussi grand, qui pêche des volumes aussi énormes et qui va les surtransformer pour les livrer aux Pays-Bas, les ramener en camion à Saint-Malo, les transformer en bâtonnets et les aromatiser au crabe et les colorer. Non, c'est clairement le symbole de tout ce qu'il ne faut pas et de la folie de l'époque. Et pour d'autres espèces, avec mon association Pleine Mer, on avait fait une manifestation en septembre 2020 à Concarneau contre le Scombrus, qui était un bateau aussi absurde, qui pêche, lui, du hareng et du maquereau, et d'ailleurs, qui vient d'avoir un écolabel France pour sa pêche du hareng, ironie de l'histoire. Et là, on est clairement sur une absurdité, c'est qu'on va pêcher des poissons que des petits bateaux peuvent pêcher à un moment de l'année, parce que le maquereau et le hareng passent au bord de la côte à certaines périodes de l'année en métropole. Et donc on pourrait clairement installer ou aider ou accompagner une flottille plus petite et valoriser ses produits, alors que ce Scombrus, lui, va congeler à bord et, ironie de l'histoire, va expédier ses produits au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, pour arriver moins cher que les produits de la pêche locaux là-bas. Donc on est sur, pareil, une absurdité totale. Donc, que ça soit l'Annelies cinena ou le Scombrus, mais majoritairement tous ces super chalutiers sont des anomalies de l'histoire. Au prorata du volume de poissons, ça fait peu d'emplois. L'entretien, la débarque, tout ça se fait loin de la Bretagne. Alors que les inaugurations et les trucs se font avec nos politiques bretons et nationaux en grande pompe, alors que c'est une vaste blague.
Tous ces politiques qui prennent des petits fours à laquelle on a assisté quand il y a eu le lancement du Scombrus à Concarneau, où on voyait des écharpes bleu, blanc, rouge de toutes les couleurs, enfin de tous les degrés là. Et quand on leur demandait, mais vous savez, qu'est-ce que c'est ce bateau? Bah oui, on est fiers, c'est un bateau français. Et quand on leur explique que, alors, je ne sais pas s'ils le savent ou s'ils ne le savent pas, ou s'ils font semblant d'ignorer, on dit, mais vous savez, ce bateau, vous le verrez une fois, vous ne le reverrez jamais de votre vie. Il a été construit, alors, je crois que c'était en Norvège, mais je ne suis pas sûr. Il ne vendra jamais en France, il n'entretiendra jamais son bateau en France, et l'équipage va être peut-être quelques Français, et encore, c'est même pas sûr. Alors par contre, il a le drapeau français parce que c'était l'armement d'Elem à l'époque qu'il avait acheté. Mais l'armement d'Elem appartient toujours au même Hollandais. Donc on se retrouve toujours dans les mêmes choses. On se retrouve avec des élus. Alors je ne sais pas si c'est par électorat futur possible, je ne sais pas quoi, ou par souci de on ne sait pas quoi non plus d'ailleurs, qu'ils applaudissent à deux mains quand ils voient des bateaux comme ça se faire baptiser comme le... À ce qui s'est passé à Saint-Malo, on apprend que le plus gros chalutier du monde fait la fierté de la pêche de Saint-Malo, je ne sais pas quoi. Là,
la compagnie des pêches de Saint-Malo.
La compagnie des pêches de Saint-Malo, dont d'ailleurs le directeur vient de passer vice-président au comité national des pêches. De même, Delem, qui représente des Hollandais, vice-président au comité national des pêches. On peut sérieusement se demander aujourd'hui que représente le comité national des pêches. Et quand on voit qu'un bateau comme le Scombrus arrive à traverser cette aire marine protégée et qu'on a notre ministre qui dit que c'est pas vrai et que les trafics lui donnent tort, on se dit qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond, quoi.
On arrive à des modèles qui sont quand même extrêmement étonnants. Avoir un bateau qui n'arrive même plus à rentrer dans le port où il est censé débarquer du poisson, pour aller le débarquer en Hollande, très loin, dans le cadre, avec un pavillon polonais, et puis que ces produits reviennent par camion pour alimenter l'usine de Saint-Malo. Et puis plus généralement, il se trouve que ce bateau va exploiter, lorsqu'il va faire du surimi, il va exploiter une espèce qui s'appelle le merlan bleu, et qui est pêché très loin au large de l'Irlande. Donc c'est vrai que c'est pas les petits bateaux de 12 mètres qui vont aller là, c'est trop loin. Donc je dirais, tant qu'il fait ça, il utilise du merlan bleu pour en faire un aliment, bon, que chacun jugera en termes de qualité, etc. Mais enfin, de l'alimentation humaine. Mais il faut savoir que le reste du temps, il est ailleurs dans le monde en train de faire de la farine de poisson à destination du saumon, dans un certain nombre de pays, notamment de pays du Sud, et de contribuer, moi j'hésite pas à le dire, au pillage des ressources du Sud, où on va piller les ressources, alors dans ce qu'on appelle les poissons fourrages, hein, l'anchois, la sardine sur les côtes de l'Afrique, c'est la sardinelle, etc. Des poissons qui, notamment en Afrique, ont longtemps été utilisés pour l'alimentation humaine et jouent un rôle très important dans la sécurité alimentaire des pays de l'Afrique de l'Ouest, et qui aujourd'hui vont faire de la farine de poisson pour nourrir les saumons des riches. C'est vraiment une forme d'exploitation qui est écologiquement absurde et d'un point de vue éthique complètement condamnable. C'est un vrai désastre, c'est un désastre humain, écologique, qui est terrible.
Moi, je fais toujours cette petite blague. On a effectivement tous beaucoup de boîtes de thon dans nos placards, et notamment souvent une qui s'appelle Petit Navire. Je vous invite juste à aller voir la taille du bateau qui pêche votre thon Petit Navire. C'est pareil, c'est le mur de l'information. C'est comme dans l'agro-industrie, on va raconter une belle histoire avec une petite saucisse et un petit moulin sur une rivière, alors qu'on ne voit pas l'envers du décor des élevages industriels porcins, comme on va ne pas voir les thoniers seineurs océaniques qui vont pêcher du thon en boîte.
Les pêcheurs sont-ils dans leur rôle, surtout les pêcheurs artisans? Charles Lebrun, vous qui êtes un ancien pêcheur et qui êtes aujourd'hui à la tête d'une association comme Pleine Mer, sont-ils dans leur rôle en ne se précipitant pas au micro pour défendre ce combat-là?
C'est le milieu de la pêche est un milieu assez compliqué et assez difficile. Je reparle volontairement du fait qu'on va tous sur le même champ, on pêche au même endroit. Donc en fait, les moyens de pression... Ils sont énormes. Donc, si on ne plaît pas au gros caïd ou au voisin qui a plus d'histoire ou qui est un peu plus violent que nous, on peut avoir des soucis. Moi, ça m'est arrivé d'être menacé en mer, de ne pas avoir droit de pêcher à tel endroit. Des menaces clairement verbales, mais qui peuvent se transformer en menaces physiques. Donc, il y a vraiment ce risque. Donc, en fait, il est très délicat, souvent, de sortir de faire sortir une tête et de dépasser un peu du troupeau. Mais il y a plein de petits lanceurs d'alerte sur le littoral qui passent par des structures, parfois comme Bloom, comme Pleine Mer ou comme d'autres, pour pouvoir faire émerger ces questionnements fondamentaux pour la transition.
Je pense qu'à un moment, il faudra que, si la pêche veut continuer à durer, il faudra quand même essayer de se retrouver autour d'une table et de discuter. Et là, on verra peut-être que c'est pas l'Europe, c'est pas les écolos qui souvent mènent la barque, quoi. Bon, il y en a, c'est sûr, ils sont un peu radicaux, mais je pense que s'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas vraiment de solution. Mais on ne peut pas rester chacun campé sur des positions qui sont à l'opposé aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui fait avancer les choses, parce que pendant ce temps-là, les gros chalutiers continuent malgré tout de pêcher, alors que je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal de petits chalutiers qui seraient bien contents de se battre peut-être à côté de certains écolos, pour que ces gros chalutiers en manche qui sont une catastrophe écologique s'arrêtent enfin, quoi. C'est ça l'histoire. Et d'un autre côté, on a peut-être, j'espère, une certaine jeunesse qui commence à dire « Nous, on veut pas de ce monde-là que vous nous avez refilé. »
Il faut bien comprendre qu'en matière de pêche, en réalité, les intérêts économiques vont exactement de pair avec les intérêts écologiques.
Didier Gasquel, professeur d'écologie marine à Agrocampus Ouest à Rennes.
Il n'y a pas de moyen d'avoir une pêche plus rentable que d'avoir une pêche qui laisse les écosystèmes en bonne santé. Je prétends qu'avec des mesures de gestion, en particulier sur les maillages, sur tout un ensemble de mesures de gestion des pêches, on pourrait pêcher la même chose qu'aujourd'hui en laissant deux fois plus de poissons dans la mer. Oui, mais si on pêche la même chose qu'aujourd'hui avec deux fois plus de poissons dans la mer, ça veut dire qu'on va les pêcher avec beaucoup moins de coûts. Ça va être beaucoup plus rentable. Donc, il n'est pas vrai qu'il y ait opposition entre l'économie et l'écologie. Au moins, en matière de pêche, ce n'est rigoureusement pas vrai. L'opposition, elle est entre le court terme et le long terme. Effectivement, oui, pour reconstituer des ressources en bonne santé, il y a une phase compliquée, ce qu'on appelle, nous, les scientifiques, la phase de transition, dans laquelle il faut, dans un premier temps, accepter de laisser s'échapper les petits poissons pour qu'ils deviennent gros, de fermer des zones pour reconstituer la productivité des océans. À court terme, c'est compliqué. C'est pour ça que la transition écologique des pêches, moi, je crois qu'elle peut aller vers une pêche qui capturera, mais largement autant qu'aujourd'hui, dans des conditions beaucoup plus rentables, avec beaucoup plus d'emplois, mais il faut l'accompagner économiquement dans ces phases de transition. Si on dépensait autant d'argent à la transition du secteur des pêches qu'on en dépense aujourd'hui pour subventionner un mode de pêche, des modes de pêche qui sont non durables, eh bien je pense que les pêches s'en porteraient beaucoup mieux. Donc je dis que les vrais défenseurs de la pêche, ce sont ceux qui prétendent d'inventer et de commencer à mettre en place dès aujourd'hui un avenir post-chalut, un avenir de pêche durable et de pêche écologique.
Pêche à la croisée des chemins ou le sort d'un vœu sain au Conseil régional de Bretagne pour une pêche plus vertueuse. C'est la fin. Remerciements à toute l'équipe de Bloom. Sur le site de bloomassociation.fr, vous retrouverez tout ce dossier sur les aires marines protégées et bien sûr sur leurs autres campagnes. Vous pouvez aussi y rejoindre la Coalition pour l'Océan. N'oubliez pas de zapper le surimi et aussi de vous abonner à Blast si vous souhaitez voir se prolonger l'aventure éditoriale d'un média indépendant s'engageant aussi, car c'est un défi, dans la production de podcasts originaux. Si vous aimez, likez et faites circuler. Pagaille est produit par Blast, proposé par Alexandre Hérault et réalisé par Vincent Deck.
Une création
Blast.